France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20. Jusqu'où ira l'affaire Epstein ? Elle a poussé deux personnalités à la démission ce week-end. En France, Jack Lang, il a quitté la présidence de l'Institut du Monde Arabe. Au Royaume-Uni, c'est le chef de cabinet du Premier ministre qui a fait ses valises. Deux noms parmi tous ceux, et ils sont nombreux, cités dans les dernières archives révélées du pédocriminel américain. Un scandale qui nourrit autant l'information que les théories du complot. Bonjour Perlam Sika.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Conspiracy Watch. C'est un média en ligne spécialisé dans la dénonciation du conspirationnisme. Qu'est-ce qui fait que ce dossier en particulier agite autant la sphère complotiste ?
Je pense en fait déjà que c'est le nombre de documents, cette masse colossale de documents qui leur sont proposés.
3 millions là, de documents
oui,
dans les dernières révélations.
Documents qui sont publiés au compte-gouttes et qui vont agiter toutes les théories, tous les fantasmes possibles qui agitent déjà en fait la sphère complotiste. Ils sont déjà là, elles sont déjà là, ces théories infondées. Et donc à partir de là, l'idée c'est de faire valider la première théorie complotiste qui est née dès 2019 après l'inculpation de Jeffrey Epstein, c'est l'idée de l'existence d'un réseau pédosataniste dont Jeffrey Epstein serait l'un des instigateurs. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est juif, parce qu'il est riche, parce qu'il a de la fortune et parce que, il faut le dire, il s'est rendu coupable de crimes sexuels.
Et donc, dès qu'un nom apparaît dans ces archives, aujourd'hui, on a l'impression que voilà, le fait d'être mentionné, c'est être coupable. Synonyme.
Oui, aujourd'hui, en tout cas...
Et en gros, ça alimente le tous pourri.
Oui, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire que je pense que ce qui est intéressant déjà avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça nous permet quand même de... plonger la tête dans quelques affaires qui sont très intéressantes. On le voit avec ce qui se passe autour de Jack Lang. Mais il y a quand même aussi l'idée que ça vient apporter de la complexité au complotisme, puisque c'est mon sujet aujourd'hui, qui entourait cette affaire Jeffrey Epstein. On parlait beaucoup d'un complotisme, d'une affaire qui entachait beaucoup les élites mondialistes démocrates, avec notamment la figure de Bill Clinton qui ressort depuis assez longtemps. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que le réseau de Jeffrey Epstein, il était beaucoup plus complexe que ça. Il parlait à Donald Trump, on en parlera peut-être après,
oui,
mais
sûr.
Il y avait aussi Peter Thiel, il y avait aussi Elon Musk. Donc, en fait, on n'est pas que sur un scandale démocrate, si j'ose dire. Et donc là, on voit finalement que c'était un homme puissant qui profitait effectivement de son réseau, qui profitait de sa richesse. Mais dire qu'on est face à une conspiration mondiale, et c'est précisément ce que cherchent à mettre en avant les sites dits alternatifs et les médias complotistes, c'est faux en tout cas.
Ils le font de quelle manière ?
Ils font monter la sauce en fait, et je pense qu'il faut ne pas être naïf, puisque c'est généralement l'accusation qu'ils retournent contre nous journalistes. Il ne faut pas être naïf sur ce qu'ils sont en train de faire ces gens. L'idée c'est de faire monter leur audience, et puis surtout c'est de faire aussi de leur faire gagner de l'argent. Je ne sais pas
donc
vous.
Donc ils y croient même pas à leur propre théorie, opportuniste.
Ça dépend, mais en fait je vais vous dire, je ne sais pas si vous feriez confiance à un journaliste qui en à peine 72 heures, et ça a été le cas de ces sites alternatifs et de ces médias complotistes, vous révèle une vingtaine de scandales. Alors Jeffrey Epstein, ça y est, il serait à la fois agent de la CIA, agent du Mossad, agent du MI6, il aurait censuré le polémiste antisémite Dieudonné, il aurait créé des pandémies avec Bill Gates, tout ça, ça vient d'un coup, et puis l'idée, c'est de nous asséner, de nous impressionner, de créer le buzz, et puis il y a évidemment la tentation d'y croire, c'est tellement palpitant.
Mais alors justement, vu l'onde de choc, vu l'écho de ces théories conspirationnistes, est-ce qu'il faut les publier justement, toutes les archives de l'affaire Epstein ? Parce qu'il y en a encore, hein, il y en a encore 2 millions visiblement d'après le procureur de New York qui attendent d'être publiés.
Moi je sais que ce qui revient ces derniers jours, c'est l'idée de cette victoire du complotisme. Et vraiment, je contre cette idée-là. Je pense que vraiment, dire ça, c'est déjà leur accorder un espace qui n'est pas celui...
C'est s'avouer vaincu.
Voilà, qui n'est pas celui des journalistes, qui n'est pas celui de l'investigation, de la recherche, du contradictoire. Non, c'est le temps de la transparence. Je pense que la publication de ces documents aujourd'hui, c'est très bien. Ça va permettre aux journalistes de faire leur travail et puis surtout de savoir précisément de quoi on parle. Le complotisme, ça capitalise autour de la confusion. Aujourd'hui, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle du trafic sexuel qui a existé, qui existe ? Est-ce qu'on parle des liens financiers ? Il y a eu Jack Lang. Est-ce qu'on parle des liens personnel et de la complaisance vis-à-vis de...
Donc il n'y a pas une affaire Epstein, mais plusieurs, en fait.
Bah, il y a plusieurs affaires Epstein. En tout cas, cet homme, vraisemblablement, qui avait un réseau colossal, s'arrangeait de sa fortune pour arranger ses affaires. Mais le complotisme ne se place pas sur ce champ-là. Il ne cherche pas la complexité, justement, de ce profil-là. Il capitalise, encore une fois, sur le fourre-tout.
Et donc, est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance ?
En tout cas, nous, c'est notre travail. L'idée, c'est de s'entendre sur les faits. Je pense que là, c'est un enjeu qui est profondément démocratique. Alors, on pourrait dire effectivement que l'enjeu démocratique, c'est de rappeler à ces hommes puissants qu'il n'y a pas à avoir de sentiment d'impunité, qu'il faut lutter contre déni face aux violences sexuelles, et c'est très bien, et il faut le faire. Nous, à Conspiracy Watch, et quand on lutte contre le complotisme, la priorité démocratique, c'est déjà que, en tant que société, on s'entende sur les faits. De quoi on parle ? On n'a jamais défendu les victimes de violences en créant des théories et des affabulations autour de leur traumatisme, autour de leur vécu. C'est pas possible. Voilà. Il faut déjà qu'on s'entende sur les faits. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail, oui. Mais c'est déjà essentiel. Quoi.
Et Donald Trump, au départ, il voulait pas que ses archives soient publiées. Puis finalement, l'administration les a publiées en estimant qu'il y avait rien de compromettant pour lui. Comment il s'en sort aujourd'hui ?
Donald Trump, c'est assez intéressant quand même, parce qu'il a quand même lui aussi fait monter la sauce pendant toute sa campagne, pendant très longtemps. Il me semble que dès 2019, il plaidait pour l'assassinat, quand Jeffrey Epstein est mort. Alors que voilà, Jeffrey Epstein, ce qu'on sait aujourd'hui en tout cas, c'est qu'il s'est suicidé dans sa cellule. Et pendant toute
Donc
sa
campagne. Donc il a apporté du crédit aux théories complotistes.
Ah oui, mais
Donald
absolument.
Trump.
Puis, enfin, l'idée, c'est un candidat anti-système quand même. Donc l'idée, c'est de créer de la défiance envers les institutions. Donc quand il capitalise autour de ça, c'est encore une fois l'idée de créer de la suspicion. On vous a menti, on vous a pas tout dit. Sauf que quand il a pris le pouvoir, le système, c'est devenu lui.
Ça se retourne contre
lui. Voilà, ça se retourne contre lui. Il est bien embêté. Et puis, il y a eu le vote du Congrès qui lui a imposé de publier ces Epstein Files. Et encore une fois, la transparence, ça a du bon. Ça va permettre encore une fois aux journalistes de faire leur travail.
Merci Perla Msika, journaliste. Vous êtes journaliste à Conspiracy Watch et vous étiez l'invité du 5-7. Merci pour votre éclairage ce matin.